Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu, un podcast donc pour cette 19e journée de Liga, donc la dernière de cette première partie de saison de championnat espagnol. Il y a évidemment beaucoup de thèmes à traiter et on va faire un numéro un petit peu différent puisqu'on va parler aujourd'hui du championnat, de sa globalité, dans l'actualité de la Liga, pour faire un point sur la dernière journée évidemment, mais sur la reprise aussi depuis le mondial, avec voilà, beaucoup de thèmes à traiter, et évidemment Sacha qui est là pour m'accompagner. Comment tu vas?
Écoute, Réfé, ça va super. C'est vrai que là, en ce moment, on a beaucoup d'actualités, d'activités même. Hein. Je pense que ça, on peut l'inclure aussi. Non, un championnat qui ne s'arrête pas, là, une saison un peu folle, et puis bon, alors, on voit des beaux matchs, et ça va super bien.
Et oui, complètement, parce qu'en plus on a eu une semaine vraiment, une semaine et même un mois de janvier vraiment rythmé, parce que du coup on a eu donc cette reprise de la Liga en fin décembre. Il y a eu après la Supercopa qui est arrivée, il y a eu les matchs de Copa aussi également cette semaine, qui ont été très intéressants à suivre. Mais justement, on va quand même revenir un peu sur cette Liga, parce que c'est le sujet quand même principal de notre podcast, on va dire. Mais voilà, un peu plus d'un mois que, à peu près un mois, voilà, que la Liga a repris. Pour toi, c'est quoi ton impression, on va dire, globale et générale sur le niveau des équipes, le niveau des clubs, et même voilà, l'ensemble de la dynamique. Voilà, depuis ce retour de mondial, on a à peu près eu voilà, 4 semaines de compétition, on va dire. C'est quoi ton opinion un peu sur comment revient cette Liga?
Mais déjà, c'est vrai qu'on l'attendait vraiment. Alors, on a vécu un beau mondial, même si l'Espagne est vite rentrée à la maison. Mais ouais, on avait quand même quelques petits doutes après ce mois et demi de trêve, voilà, de comment allaient revenir les joueurs, comment certaines équipes avaient fait pour rester concernées et bon, reprendre de la meilleure des manières. Il y avait quand même aussi beaucoup d'enjeux. Hein. Ça a été stoppé à la 14e journée. Et la lutte pour l'Europe battait déjà son plein. Idem pour le titre et la zone rouge. Moi, j'ai l'impression qu'on voit quand même des matchs assez intéressants, qu'on reste sur cette dynamique assez intéressante depuis le retour du public dans les stades, avec des équipes qui sont assez belles à voir jouer. Je pense au Rayo Vallecano, je pense même à Osasuna cette saison, à la Real Sociedad. Bon, ça va un peu moins bien pour vous, mais l'Athletic Club, mine de rien, ça maîtrise bien ses matchs. C'est assez sympa à regarder. Voilà, il y a plein d'équipes un peu comme ça qui font plaisir. Il n'y a pas eu encore de choses réellement actées, quoi. C'est-à-dire que les courses, ben, pour les différents prix sont intéressantes. Voilà, tout le monde se tient un petit peu. Voilà, on voit des matchs intéressants. Le gros point négatif, on en avait déjà parlé dans un podcast, et je ne sais pas si tu voudrais y revenir aussi, mais c'est mine de rien l'arbitrage. Parce que si le niveau de jeu sur le terrain est vraiment en hausse, le niveau de l'arbitrage, c'est alarmant. On n'est même plus sur une journée sans polémique, on est plus sans un match sans polémique. Voilà, on sent vraiment que ça porte préjudice maintenant au spectacle, en plus de porter préjudice directement aux acteurs. On l'a vu là récemment encore avec ce but accordé à Elche face à Cadiz, alors qu'il y avait un hors-jeu assez net, hein, que la VAR n'a pas détecté. Donc là, c'est vraiment le gros point négatif depuis la reprise du championnat, voilà, l'arbitrage. Mais sinon, on a mine de rien des équipes en forme, des équipes qui se sont reprises. On a quand même pas mal de buts sur certaines pelouses aussi, des joueurs qui sont assez impressionnants, mine de rien. Donc non, ma première impression, elle est bonne. Pour finir mon propos, on avait vraiment vu une cassure à la reprise du championnat lors du Covid. Là, vraiment, les stades vides, on avait vraiment un football espagnol qui avait bien freiné en termes de niveau. Là, pour le coup, on pouvait aussi avoir la même peur, quelque part, avec ces un mois et demi d'arrêt. Mais non, je trouve que, mine de rien, on reste sur cette dynamique intéressante. Donc, voilà, en ce qui concerne les joueurs et le jeu, c'est très bien. Et l'arbitrage, par contre, là, il y a, Il y a vraiment beaucoup de travail à accomplir, puis ça se traduit aussi avec cette guerre ouverte entre la fédération et la ligue.
Ouais, ben complètement. T'as soulevé déjà les points essentiels, on va dire, de ce qu'on pouvait mentionner sur ce mois de compétition. Ben c'est vrai qu'honnêtement, moi, c'est pareil. Avant de ce podcast, je réfléchissais un peu à la réponse aussi et je me disais que c'est vrai que pour parler un peu du négatif rapidement, c'est l'arbitrage évidemment un gros problème. On l'a déjà dit sur plusieurs podcasts, on l'a déjà dit en Space, sur Twitter, on l'a déjà un peu partout. Mais on voit bien que voilà, maintenant c'est compliqué de passer un match sans polémique, c'est compliqué de passer un week-end sans qu'il y ait de polémique. Et on voit bien que souvent ce sont toujours sur des différences au niveau des critères, parce que tel arbitre va penser telle chose de telle action, quand un autre pensera exactement l'inverse. Donc il y a un vrai problème, et évidemment ça mine un peu la qualité du championnat, ça mine la qualité des matchs, parce que c'est quelque chose qui forcément affecte les résultats, affecte les équipes, et bon, affecte aussi du coup les médias et un peu la pression globale qu'on a du championnat. Et malheureusement, c'est vrai que je sais pas si la Liga est la risée des 5 grands championnats sur ce point-là, mais il y a quand même un sérieux problème qui continue de s'entretenir. Et toi, tu l'as déjà dit, même que voilà, avant on était beaucoup avec cette idée que la VAR était comme là pour nous aider. C'est toujours l'outil qui est censé nous aider, mais on se rend bien compte quand même que depuis un certain temps, il y a quand même un vrai problème aussi autour de la VAR et de son utilisation. Donc non, il y a aussi un déséquilibre sur ce point, et c'est voilà, le principal point négatif. Et je dirais que malheureusement, ça s'est un peu accentué, ou du moins répété plus souvent avec la reprise depuis le mondial. Mais sinon, sur ce qui est du sportif, on va dire que voilà, c'est pareil, un championnat qui tient toutes ses promesses. Tout simplement, tu as parlé de toutes les courses qui sont toujours en jeu. Évidemment, je vais pas revenir sur ça, mais on voit bien que il n'y a pas tellement de y a rien qui est figé, à part bon, peut-être Elche qui et encore, on est tôt dans la saison pour le dire, mais c'est vrai que cette équipe d'Elche, on va y revenir un peu après, mais c'est terrible à voir, parce qu'il n'y a rien qui va, et on voit absolument pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Mais sinon, que ce soit pour le reste, pour le maintien, pour l'Europe, et pour le titre évidemment, ce qui reste aussi une course importante, on voit qu'il y a tout le monde est au rendez-vous pour répondre. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que voilà, entre le championnat qu'on avait avant le mondial et le championnat qu'on a post-mondial, on voit qu'il y a quand même des changements de dynamique, bon, évidemment, qui sont assez normaux, mais c'est vrai que ce soit l'Athletic, on a parlé avant, qui voilà, a du mal depuis le retour du mondial, le Betis aussi, qui décroche un peu, Osasuna aussi, qui bon, en championnat allait mieux sur les derniers matchs, mais qui voilà, était peut-être un peu moins impérial qu'à un certain moment du début de saison. Voilà, on voit bien quand même qu'il y a des équipes qui ont perdu le rythme, au grand d'autres, évidemment, garder un rythme, ont regardé ou plutôt repris un rythme assez imposant, que ce soit la Real, qui évidemment enchaîne les victoires en ce moment, même s'il y a eu l'élimination en Copa, que ce soit le Villarreal, qui pareil va beaucoup mieux depuis quelques temps, alors qu'il y avait des doutes avec Setién. Même voilà, des équipes comme Majorque qui font voilà, de super matchs ces derniers temps. Donc voilà, dans ce championnat, il est évidemment très très passionnant. C'est vrai qu'il y a eu la statistique publiée cette semaine par Transfermarkt qui montre que l'Espagne est le championnat où il y a le plus faible ratio de buts par match. C'est vrai que voilà, c'est un point qu'on a déjà noté, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de matchs malheureusement qui se terminent sans but. Mais je dirais que pour autant, la qualité et le contenu des matchs en lui-même reste vraiment intéressant à suivre. Il y a évidemment toujours des équipes qui sont plus ou moins intéressantes à suivre que d'autres, et des matchs qui sont toujours plus ou moins intéressants. Mais dans l'ensemble, non, je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit après, parce que c'était très juste. Mais voilà, on a un championnat qui tient toutes ses promesses. Et puis surtout, voilà, des équipes qui, certaines sont dans la crise et qui vont devoir réagir, et d'autres voilà, qui sont dans des dynamiques beaucoup plus positives. Et on peut voir aussi voilà, de belles surprises, parce qu'on rappelle que le championnat en est à peine à la mi-saison, et donc qu'il y a encore beaucoup à jouer. Mais voilà, pour ce championnat, en tout cas, on sent bien qu'il y a quand même un certain niveau qui est toujours présent, même si ça n'en témoigne pas toujours dans les résultats. Et puis voilà, il y a beaucoup de points à mentionner. Et puis ben, je vais te passer la parole, Sacha, pour qu'on vienne quand même sur une équipe dont on parle beaucoup en Espagne assez justement ces derniers temps. C'est évidemment la Real Sociedad qui est troisième plus que jamais, j'ai envie de dire, puisque il y a eu un écart qui s'est creusé sur Atlético depuis le retour du mondial, et même sur Villarreal et le Betis et toutes les autres équipes derrière. Et puis en même temps, voilà, il y a un écart assez faible avec le Real Madrid qui, certes, a un match de moins, Et il y a ce match, donc ce week-end entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Voilà, est-ce que pour toi, on pourrait dire que la Real est vraiment la véritable troisième force de ce championnat? Est-ce que tu les vois même capables de la conserver jusqu'à la fin de saison, ou du moins encore pour les prochains?
Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une équipe qui fait plaisir. Lors des 2-3 dernières saisons, bah, avec Imanol, on sentait qu'il se passait quelque chose, que c'était vraiment intéressant, mais il y avait toujours ce petit moment de la saison où les résultats s'effondraient et ça leur coûtait vraiment bah, toute ambition déjà pour le titre et pour les places en Ligue des Champions. On sentait que c'était une équipe de niveau Europa League, mais qui n'avait pas franchi le cap. Et cette saison, c'est vrai que c'est assez bluffant. En Europe, c'est, je crois qu'il n'y a que Manchester City qui a gagné plus de matchs qu'eux. Ils sont vraiment avec des statistiques de victoire impressionnantes. Ils ont gagné 75% de leurs matchs et ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Encore une fois, là, ils ont une dizaine de joueurs qui sont sur le carreau, qui ne seront pas là pour le match face au Real Madrid. Alors, c'est vrai que Lucas ou même Gourvan, qu'on salue bien évidemment, nous en aurait mieux parlé, mais on sent vraiment que c'est une équipe qui aujourd'hui est arrivée à maturité. Il y a d'excellents joueurs ligne par ligne. Je veux dire, le gardien, c'est une valeur sûre de la Liga. Aujourd'hui, Remiro, même si bon, il y a toujours les petites frites, les petites altercations entre supporters de l'Atlético et de la Real avec Unai Simon, mais voilà, ça reste un très bon gardien. Leurs latéraux sont vraiment intéressants. Ils ont un Robin Lenormand qui, cette saison, a encore franchi un cap, je trouve, physiquement, balle au pied. C'est vraiment une valeur sûre de ce championnat et même une valeur sûre en Europe. Hein. J'ai pas peur d'aller jusque-là. Je pense que c'est un défenseur central d'avenir et c'est peut-être terrible de dire ça déjà pour la Real, même si je parle d'eux, mais voilà, on pense que cet été, il va y avoir des très grosses offres sur la table parce que voilà, c'est un joueur phénoménal. Au milieu de terrain, ils ont un quatuor de rêve, les quatre fantastiques, quoi. Je veux dire, David Silva, qui, bon, là, malheureusement, il s'est blessé, mais il fait une saison incroyable. Merino, qui est le meilleur passeur de Liga aussi. Zubimendi et bien évidemment Bryce Mendes, qui est peut-être la meilleure recrue de cette saison, quand on voit tout ce qu'il a apporté en termes de buts et en termes de passes décisives. Disons des attaquants, Sorloth, qui moi personnellement, l'année dernière, je le trouvais un peu pâteau, un peu lourd, techniquement en retard. Il a progressé de manière fulgurante. Là, il est même nommé parmi les potentiels joueurs du mois. Il a été décisif à chaque match. Il est souvent l'attaquant qui marque le premier but et qui débloque une rencontre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Il y a le retour de Mikel Oyarzabal aussi, on en entend beaucoup. Hein, lui qui est vraiment un joueur pareil, d'une classe. De classe mondiale, tout simplement. Donc, oui, pour moi, on peut le dire parce qu'en plus, l'Atleti semble marquer le pas. Il y a vraiment cette progression, je trouve, que n'a pas eu le Betis. Pourtant, ce sont deux équipes qui se suivent en plus. Hein, la Real, a gagné la Copa un an avant que le Betis ne la gagne. Peut-être que l'année prochaine, le Betis sera au niveau de la Real aussi. On sent que c'est des projets qui se suivent, mais voilà, la Real est en avance. Je pense que la Real est aussi en avance sur Villarreal. Voilà, je pense que dans ce championnat-là, c'est pas anodin qu'ils arrivent à se mêler à la course pour le titre, parce qu'on parle vraiment que du Barça et du Real, mais en cas de victoire ce week-end sur le Real Madrid et d'un faux pas du Barça, tout serait relancé, hein, ils sont pas non plus à 15 points, donc avec encore des confrontations directes, voilà. Il y a cette notion des blessures qui est quand même assez importante. Voilà, on va voir comment ils vont gérer ça. Mikel Merino, j'en ai parlé, mais malheureusement, il est blessé. Il s'est fait le biceps fémoral et on sait que c'est le genre de blessure qui demande un gros mois de convalescence. Mais voilà, non, vraiment, je tire mon chapeau aussi à Imanol Alguacil parce que c'est un entraîneur voilà, qui a un projet, qui va au bout des choses, qui arrive à vraiment faire progresser ses joueurs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs en Liga qui sont capables de présenter le même bilan en termes d'amélioration de certains actifs de l'équipe. Donc, c'est vraiment une super équipe cette saison, très équilibrée. Solide dans toutes les lignes. Ouais, je pense qu'ils sont clairement la troisième meilleure équipe de ce championnat. Voilà, et ce match au Bernabéu sera vraiment, pourquoi pas, le moyen de le prouver, voilà, d'arriver pour eux à décrocher une nouvelle victoire en Liga et une victoire de prestige contre un prétendant au titre. Donc voilà, ouais, je pense que cette saison, on peut dire que la Real Sociedad est clairement dans le top 3.
Ouais, c'est vrai qu'on en parlait aussi beaucoup avec Urban qui parle et beaucoup de supporters de la Real qui partagent ce point de vue-là. On va s'attarder maintenant sur une autre équipe comme qui est aussi une équipe importante du championnat espagnol, mais qui malheureusement va un peu moins bien ces derniers temps, c'est Valence. On va en dire quelques mots parce que c'est vrai que Valence semble quand même au fond du trou. Depuis maintenant la reprise du mondial, il n'y a pas eu de succès en Liga. Il y a des matchs comme qui sont assez préoccupants, même si c'est vrai que c'était pas non plus toujours des adversaires faciles, mais voilà, Valence, on sent que c'est quand même une équipe qui a du mal à se mettre en route, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà dit dans des podcasts qu'on a fait cette saison, mais le Valence de Gattuso est vraiment très intéressant à regarder, et on sent qu'il y a une idée derrière ce qui est construit. Maintenant, cette idée, je dirais qu'elle est toujours présente, mais qu'elle a du mal à s'imposer et à se mettre en place, parce que c'est vrai qu'au début de saison, ben forcément, on laissait un peu alors je sais pas dire le bénéfice du doute, mais on laissait le temps faire les choses pour voir si tout ça allait un peu s'appliquer, se mettre en place. Maintenant, voilà, on arrive à la mi-saison, à la fin du mois de janvier, et c'est vrai que Valence, au final, n'a que 3 points d'avance sur la zone rouge. Et effectivement, la dynamique est cassée, même si c'est vrai qu'on rappelle qu'il y a un match de moins par rapport à la demi-finale qui avait été jouée justement en Supercoupe d'Espagne. Et encore, ce match de moins sera joué face au Real Madrid, donc c'est pareil, il y aura quand même. Voilà, pareil, un choc, et même si cette équipe est capable de faire de bonnes choses, ça semble quand même difficile de les voir aller surprendre ce Real Madrid qui, ces derniers temps, quand même, voilà, on parlera un peu après rapidement, mais s'en sort globalement dans ces matchs. Mais voilà, moi je pense pas que Valence va y ait de réels risques de descendre pour Valence, peut-être que je me trompe, mais j'espère pas en tout cas, parce que cette équipe de Valence a quand même des qualités et des ressources. Mais c'est vrai qu'on est fin janvier et plusieurs supporters et même journalistes de Valence en parlaient. C'est vrai qu'il y a eu cette élimination aussi en Coupe d'Espagne cette semaine à Mestalla contre l'Athletic. Et c'est vrai que la saison de Valence est presque finie déjà, ou est déjà finie, parce qu'en fait, vraisemblablement, ils ne se remêleront pas à la course pour l'Europe. Il y avait un espoir pendant un temps, mais voilà, maintenant ils sont quand même pratiquement à une dizaine de points, un peu moins des places européennes, et on ne les voit pas forcément en forme pour aller accrocher ces places qui, évidemment, leur feraient beaucoup de bien. Et en même temps, il y a aussi le maintien assuré, mais. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui sont plus faibles que sur ce point. Elche, évidemment, d'en parler. Valladolid, qui justement est leur prochain adversaire du week-end, est pareil sur une dynamique assez mauvaise. Et je pense qu'ils sont un cran en dessous de Valence. Et voilà, même des équipes comme Cadiz ou Getafe, qui. Même voilà, même Séville, qui en soi voilà, vont peut-être un peu mieux depuis quelques temps, et du moins quelques succès par-ci par-là. Mais je pense que Valence reste au-dessus de ces équipes-là. Donc, je ne dirais pas qu'il y ait de catastrophe, pardon, à proprement parler qui puisse se produire. Maintenant, voilà, une saison c'est long, le foot il y a toujours des surprises et on ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est vrai que cette équipe de Valence, pour moi, elle me semble un peu condamnée à jouer le ventre mou maintenant sur cette fin de saison, parce que ils ont la qualité pour se maintenir, mais en même temps, je dirais qu'ils n'ont pas celle pour viser plus haut, ou du moins vu en tout cas le rythme qui est quand même de plus en plus intense devant. Ça m'a semblé compliqué de les voir faire quelque chose. Et voilà, tout ça, c'est vrai que cette équipe dans le jeu a toujours des idées, mais on sent qu'en face, dès que l'adversité est un peu plus haute, on sent qu'il y a une difficulté. On l'a vu contre Villarreal au retour du mondial, on l'a vu même dans le match de Copa contre Athletic justement. Et puis, dans les matchs où voilà, on attend peut-être plus d'eux, ils ont quand même une difficulté aussi à passer au-dessus vraiment de leur adversaire. Enfin, le match contre Almeria, par exemple, le montre. Ils ont en soi produit des choses. Ils ont montré voilà, des bonnes choses aussi. Mais au final, la finalité, c'est que ce match s'est conclu en match nul. Et donc, c'est en tout cas un vrai problème. Et cette équipe a du mal vraiment à faire les différences malgré la qualité qu'il y a. Donc voilà, ce sera en tout cas à suivre. Mais je pense que Valence, malheureusement, va vivre une fin de saison. Alors pas forcément triste, parce que voilà, c'est aussi la réalité du club. Marcelino, qui était en interview cette semaine d'ailleurs, en parlait que il y aurait cette direction, Valence aurait du mal à retrouver ce qui lui était destiné, c'est-à-dire l'Europe et évidemment les matchs européens que Mestalla connaît bien. Donc voilà, et en tout cas, il y a une situation problématique. Je ne dirais pas qu'il faille trop s'en inquiéter pour l'instant parce que la saison reste longue et il y a de la qualité. Mais c'est vrai que ça va être compliqué maintenant d'espérer voir Valence faire quelque chose dans le reste de cette saison. Et puis donc avant de passer à un autre point de ce podcast sur des individualités un peu après on parlera notamment du joueur du mois de janvier. Je t'interroge d'abord rapidement Sacha sur Séville parce que c'est vrai que j'en disais deux mots là, mais Séville joue Elche, donc on l'a dit qu'il est lanterne rouge cette Liga, toujours pas la moindre victoire à l'aube justement de la mi-saison. Est-ce qu'on peut parler de tournant pour les hommes de Sampaoli qui voilà. Ont quand même gagné le week-end dernier, mais qui ont eu du mal quand même contre Cadiz. Est-ce qu'on peut parler de tournant pour ce match qui arrive et pour les prochaines semaines?
Assurément, assurément. Ils ont repris un gros coup sur la tête là, avec cette élimination à Osasuna. C'était leur ultime chance hein, de décrocher l'Europe. Je sais que pendant longtemps, au tout début de saison, j'ai refusé de croire que malgré un mauvais départ, cette équipe ne jouerait pas l'Europe. Mais là, je pense que ça y est, on peut le dire. Ils sont vraiment en pleine option maintien. Il n'y a pas grand-chose dans cette équipe, honnêtement, ça fonctionne pas du tout. Il y a aucun match abouti, même la dernière victoire contre Cadiz, elle a fait du bien aussi. Derby andalou, derby de bas de tableau, mais ça a été poussif, plus que poussif. Hein. C'est vraiment, il s'en est pas fallu non plus de trop pour que Cadiz ne reprenne un point dans ce match. On sent que le public du Pisroan est vraiment frustré, que vraiment c'est un club qui a d'énormes soucis en interne. Et on a peur pour leur avenir, même s'ils se sauvent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match face à Elche, c'est le tournant à pas louper. Parce que mine de rien, cette saison, ils ont été incapables d'enchaîner deux victoires d'affilée en championnat. Ce serait ben, du coup la possibilité de le faire enfin. Mine de rien, d'arriver à le faire face à deux de leurs concurrents pour le maintien, c'est malheureusement pas anodin non plus. Je dis malheureusement parce que c'est fou en fait de se dire qu'à mi-championnat, le Sevilla se trouve dans cette situation-là. Mais voilà, c'est la réalité qu'ils sont en train de traverser. Évidemment, Elche, c'est une équipe pareille qui est totalement à la dérive. Les mecs n'ont plus gagné un match depuis plusieurs mois. On sent que, à moins d'un miracle et d'une erreur de la VAR, ils sont incapables de prendre un point. Bon, c'est vrai qu'ils ont une légère amélioration face à Osasuna, mais je pense que Osasuna avait aussi la tête ailleurs avec l'histoire à écrire au Sadar, et c'est ce qu'ils ont fait en atteignant les quarts de Copa. Mais voilà, Elche, c'est peut-être l'une des équipes les plus faibles, même de l'histoire hein, de la Liga à 3 points. Je pense que ce sera vraiment très intéressant de voir d'ici une dizaine de journées s'ils ne sont pas capables de, malheureusement pour eux, pour l'année des 100 ans du club, établir un triste record parce que je crois qu'ils ont 5 points après 18 journées. Enfin, c'est famélique. Hein. On est potentiellement sur une équipe qui sera à 10 points en fin de saison. Et ils ont même perdu Roger Marti. Voilà. Bon, bref, le sujet, c'est le Sevilla. Mais justement, quand on dresse ce tableau-là de l'adversaire, et en plus à domicile pour les hommes de Sampaoli, c'est une défaite interdite et c'est une victoire qui pourrait faire du bien parce qu'en plus, après ça, il y a un déplacement au Camp Nou. Donc, ça risque d'être un peu corsé. Il y a une réception de Majorque. Pareil, Majorque, tu l'as dit, c'est quand même une équipe qui, même si c'est vrai qu'elle est un peu moins bonne que lors des derniers week-ends avant la trêve, ça reste une équipe vraiment de bonne facture en Liga, avec Mouriki, par exemple, qui peut faire vraiment, vraiment beaucoup de mal. Ils auront ce match face au PSV Eindhoven en Ligue Europa, donc ça va leur pomper aussi de l'énergie. Puis ils iront au Rayo, ils accueilleront Osasuna et ils iront du côté du Metropolitano. Donc vraiment, ils ont un gros calendrier devant eux. Et ces 3 points à ne surtout pas louper, parce que vu leur forme, on peut se dire que sur les matchs qui les attendent, ben, ils vont pas faire carton plein, ça va être chaud jusqu'au bout. Mais alors si en plus ils n'arrivent pas à prendre ces 3 points-là, qui sont 3 points entre guillemets gratuits, hein, comme j'ai dit, vu la situation d'Elche, là ce sera vraiment très problématique. Donc oui, c'est un tournant. Je pense que c'est aussi, mine de rien, ce genre de match qui peut remettre en confiance certains joueurs. On voit sur les dernières rencontres que Rakitic essaye de vraiment prendre plus de leadership encore dans cette équipe. On sent qu'il essaye d'haranguer un peu ses coéquipiers, que c'est lui le patron du milieu. La défense, c'est compliqué. Mais Il n'y a pas vraiment eu non plus de recrues. Je pense qu'ils sont, ils sont en train de traverser une saison horrible. Et ils l'ont vraiment pas vu venir. Je pense que même Monchi, le choix de Sampaoli, il traduit ça. C'est qu'il ne se rendait pas compte de la catastrophe, d'à quel point l'effectif était mal construit. Je pense qu'eux, au moment où ils ont nommé Sampaoli, ils disaient toujours que l'Europe était possible. Et on voit bien que non. Et là, Sampaoli, lui, ce n'est pas non plus un entraîneur qui est... fait pour maintenir une équipe. Voilà. Il y a tellement de qualités qu'on n'ose pas penser au pire, un peu comme Valence, j'ai envie de te dire, même si c'est encore plus grave du côté du Sevilla. Mais voilà, clairement, ce match-là de ce week-end, si jamais il n'y a pas de victoire, là, il va falloir vraiment penser au pire. Et s'il y a victoire, voilà, ça leur permettra d'avoir de l'air. Mine de rien, l'avantage, c'est qu'aussi en bas de tableau, les équipes se tiennent un peu. Hein, et c'est facile, entre guillemets, de remonter pas loin de la dixième place avec une ou deux victoires, c'est possible. Là, voilà, c'est 3 points cadeaux, il faut absolument qu'ils les saisissent, parce que sinon on va ça va être très très compliqué pour les semaines à venir.
Ouais, et puis tu parlais justement de Rakitic, ça me permet de faire directement la transition avec le prochain point qu'on va traiter. C'est voilà, quel joueur du mois pour ce mois de janvier. Juste voilà, pour rappeler la liste des nominés, donc Rakitic qui évidemment est présent. On a aussi donc Joselu qui est là, Sorloth, Aitor de Osasuna, Benzema, Ter Stegen et puis Parejo. Voilà, pour ta part, quel sera le tien pour ce mois de janvier? On sait que c'est difficile de les départager, mais voilà, parmi tous ces joueurs, qui tu pourrais nous donner?
Je suis très content déjà que Ter Stegen soit dans cette liste. Voilà, je pense que ça vient quand même récompenser aussi cette statistique incroyable de 13 matchs, de 13 clean sheets en Liga. Voilà, le Barça a une défense phénoménale, 6 buts à peine encaissés. C'est vrai que c'est des stats absolument incroyables. Et je pense, voilà, il a été aussi nominé pour ça, pour récompenser, mettre en avant cette faculté défensive de l'équipe de Xavi. Donc ça me fait plaisir. En plus, c'est rare aussi de voir des gardiens être nominés. Thibaut Courtois l'a été, mais sinon Bono l'année dernière n'a pas non plus trop souvent été dans les propositions. Donc c'est bien en tout cas pour ce poste-là aussi. Parejo, j'ai bien aimé aussi ce qu'il a réussi à faire avec Setién. Bon, de toute façon, c'est un joueur qui est totalement Setién compatible, et sur les bonnes performances de Villarreal, il est à chaque fois sorti de... Il a sorti à chaque fois son épingle du jeu. Mais je pense que si on parle du joueur du mois, ça doit aller entre Sorloth et Benzema, parce que c'est des joueurs qui marquent à chaque rencontre, qui font gagner leurs équipes. La dynamique collective dans laquelle ils évoluent est bonne. Ils marquent souvent les buts pour ouvrir le score. Voilà, pour aller très très vite là-dessus, je pense que ça va se jouer entre les deux. Alors, est-ce que Benzema va égaliser avec Lewandowski pour avoir son premier titre de joueur du mois de la saison et revenir à un partout? Ou alors est-ce qu'ils vont le donner à Sorloth pour mettre aussi en avant le mois extraordinaire de la Real Sociedad, sachant que Bryce Mendes aurait pu l'avoir aussi en début de saison, finalement il ne l'a pas eu. Voilà, pour moi c'est presque impossible à départager entre les deux, tant ils se ressemblent au niveau de leur performance et de l'impact qu'elles ont eu pour leurs équipes. Donc voilà, ce serait même bien d'avoir un co-meilleur joueur du mois. Ce serait le plus logique entre Benzema et Sorloth.
Ouais, ben moi je te rejoins globalement sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que ce sont deux joueurs qui font. Qui ont fait un grand mois, et puis Benzema, on va y revenir un peu après justement. Mais c'est vrai que non, ce sont deux joueurs qui ont été décisifs pour leur équipe. Pour ce que tu as dit sur les autres joueurs, je te rejoins complètement, notamment sur le Ter Stegen, et puis même voilà, sur Aitor Fernandez du coup de Sassuna, qui c'est vrai au départ était doubleur de Sergio Herrera dans les cages, mais qui quand même, moi je trouve depuis quelque temps c'est affirmé, hein, il fait beaucoup de gros matchs. C'est vrai que quand Levante a été relégué, c'est vrai que c'était un peu un regret de le voir, voilà, avec cette équipe, parce que voilà, lui était vraiment en tout cas un maillon fort de cette équipe, et c'est un gardien d'une excellente qualité, et le voir nommé là, c'est pas non plus très surprenant. Mais c'est vrai que, alors, moi, c'est vrai que Benzema et Sorloth me plaisent énormément. Il y a un joueur après aussi que j'aime, enfin que j'ai envie de mentionner, c'est évidemment Joselu, qui voilà, qui bah, pareil, a quand même permis à l'Espagnol d'avoir peut-être 6 points au moins sur ce mois-là, parce que il a inscrit des buts qui ont été quand même décisifs, même Même c'est lui d'ailleurs aussi qui marque, si je ne dis pas de bêtises, au Camp Nou sur lors du derby en fin d'année dernière. Donc c'est un joueur quand même qui a une importance notable vraiment pour l'Espagnol. Et peut-être qu'après, son mois est bon, mais peut-être un peu en dessous de celui de Charlotte Benzema. Mais c'est vrai que je trouve qu'en même temps, ce titre, s'il l'obtenait, récompensera aussi l'ensemble de la saison qu'il fait, parce que il est quand même le meilleur buteur espagnol du championnat en ce moment. Et voilà, c'est pas rien non plus en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, je pourrais dire Joselu honnêtement, mais voilà, des joueurs comme Benzema et Sorloth ont fait un mois qui était vraiment étincelant. Et justement, ce sera très intéressant d'observer aussi dans ce choc de dimanche entre le Real Madrid et la Real Sociedad aussi, bah, la performance de ces deux joueurs qui sont quand même, voilà, un super niveau depuis quelques temps. Donc voilà, c'est un peu comme ça aussi que je pourrais résumer mon opinion par rapport à cette question qui est assez difficile, parce que ça reste toujours complexe de trancher. Voilà, un peu ce qu'on pourrait dire sur les différents joueurs présents et qui sont nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Liga. Donc. Et puis bah, je reviens avec toi, Sacha. On aura donc la réponse, pardon, de ce trophée dans les prochains jours. Je reviens avec toi, Sacha, du coup, pour parler bah, du Barça qui bah, voilà, est en tête de championnat avec 3 points d'avance sur le Real Madrid à la mi-saison. Il y aura évidemment donc ce match à jouer face au Betis et Madrid qui jouera donc contre Valence, on l'a dit tout à l'heure, qui permettront donc de mettre les deux équipes à égalité de match à 19 matchs la semaine prochaine. Voilà, est-ce que pour toi, on peut parler de carrière de champion pour ce Barça? Ça, qui voilà, semble quand même assez, enfin, qui au-delà de sembler quand même était suffisamment impressionnant sur cette première partie de saison.
Ce qui est sûr, c'est que le Barça de Xavi affiche un bilan comptable absolument phénoménal. 44 points, c'est très très peu de points justement donc laissés en cours de route. Il y a eu cette défaite face au Real Madrid, il y a eu ce match nul rageant en première journée face au Rayo, il y a eu ce match nul aussi face à l'Espagnol dans le derby, un peu rageant aussi de même manière, mais sinon après tout le reste c'est que des victoires. J'en ai parlé pour mettre en avant Ter Stegen, mais c'est une défense de fer, hein. Araujo, Christensen, Balde et Koundé, vraiment ils font une saison incroyable, et quand on pense à la défense de l'année dernière qu'avait à disposition Xavi, c'est le jour et la nuit, hein. Donc non, c'est sûr que le Barça a vraiment une fière allure sur le papier. Voilà, c'est une saison incroyable. Ils sont en train, du moins en Liga, et ils sont pleinement dans la course. Maintenant, malgré la note positive, il y a aussi les matchs. Et si on se concentre sur ceux qui ont été récemment joués en Liga, on n'a pas non plus un Barça si souverain que ça. Le match face à l'Espagnol, le premier match de reprise, le derby, après 25 bonnes minutes, même très bonnes, il y a une équipe qui s'est complètement endormie, qui est tombée dans ses travers, qui a fait preuve de suffisance et qui au final a été sanctionnée sur une erreur individuelle qui peut arriver d'un penalty et qui n'a pas su ensuite reprendre l'avantage, donc 2 points de perdu. Ce match au Metropolitano, pareil, 20 bonnes minutes, le but de Dembélé et ensuite rideau, plus rien. Une équipe dominée et il s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'encore une fois il y ait une erreur individuelle ou alors une inspiration de l'autre côté et que le match ne se termine en match nul. Le match face à Getafe était extrêmement poussif, pareil. On n'est quand même pas sur, quand on parle de Getafe et surtout au Camp Nou, on n'est quand même pas sur une foudre de guerre. Hein. C'est une équipe qui concède beaucoup, qui est pas en réussite et je trouve que dans ce qui était proposé, c'était quand même assez alarmant. Alors maintenant, il y a aussi les résultats un peu annexes, hein, que ce soit en Coupe du Roi et en Supercopa, notamment la finale face au Real Madrid, qui donne un peu de baume au cœur et qui franchement montre que cette équipe, elle est aussi capable de vraiment bien performer. Je pense qu'il y a aussi une gestion, mine de rien, des hommes, parce qu'entre les suspensions de Lewandowski, de Ferran Torres, même de Jordi Alba à un moment, les petits pépins physiques à droite et à gauche, Araujo et Frenkie de Jong, par exemple, ont dû être ménagés. Et sur ce calendrier XXL, le Barça n'a pas l'effectif, je pense, pour être bon tout le temps. Voilà, on est quand même encore dans une équipe qui est en transition. Voilà, petit à petit, Xavi est en train de façonner son projet. Mine de rien, disons que la le plus grand enseignement qu'on a eu de ces dernières semaines, c'est que je pense que Xavi a vraiment trouvé son système avec les quatre milieux, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Ça avait été testé face à l'Athletic Club, d'ailleurs, qui est, à mon sens, le dernier match référence du Barça en Liga. Ça commence à remonter quand même un petit peu. Mais voilà, au moins, on sent que c'est un Barça qui est vraiment en train de se trouver. La défense, elle est établie, le milieu, il est établi. Bon, Lewandowski, pas besoin d'en parler, c'est le meilleur buteur de Liga et on voit clairement un Barça sans et un Barça avec lui. Donc ça va être très intéressant de pouvoir compter sur lui la semaine prochaine parce que bon, déjà il y a ce déplacement à Girona, mais il va y avoir le déplacement du côté du Benito Villamarín et l'accueil du Séville. Donc c'est quand même deux gros matchs, même si le Séville, on en a parlé aussi, ça va un peu moins bien, ça reste toujours une affiche. Donc voilà, le retrouver pour ces matchs-là, ce sera intéressant, mais voilà, malgré des matchs un peu ternes dans le jeu récemment, oui, globalement, je pense que le Barça, quand même, fière allure. Faut voir aussi ce que va faire le Real Madrid. Ils ont un gros calendrier avec le Mondial des clubs. Ils sont eux aussi en demi-finale de Copa. À voir d'ailleurs si on aura un Classico, pourquoi pas. Ils vont avoir la Ligue des Champions aussi, donc. Voilà, je pense que ça va se jouer, ça sera serré. Je pense que la gestion d'effectifs sera déterminante. Xavi, pour le moment, ça passe. Voilà, y a, mine de rien, les victoires sont là, ça engrange de la confiance. Mais voilà, quand même, attention, j'aimerais bien voir un bon match référence du Barça, si possible ce week-end des Girona, ou alors même la semaine prochaine face au Betis, pour vraiment chasser les petits doutes, parce qu'encore une fois, on sent qu'il suffit d'un rien et. Tu peux perdre 2 points, voire plus sur une rencontre. Et vu le rythme du Real Madrid, ça peut aussi se payer très très rapidement. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je pense que ce sera une Liga qui se jouera aux alentours des 100 points. Alors, est-ce que les 100 points seront à nouveau atteints? Ça, je ne sais pas. On se rappelle que les premiers à l'avoir fait, c'était le Real Madrid de Mourinho. Puis ensuite, il y avait le Barça de Tito Villanova l'année suivante. Depuis, il n'y a plus eu 100 points. Ça s'en est très largement approché, mais ça n'a plus été fait. Donc, on va voir. Mais en tout cas, oui, globalement, le Barça a une allure de champion, ça c'est sûr.
Ouais, et puis donc du coup tu parlais du Real Madrid. Moi je vais y revenir en m'attardant surtout sur un joueur, parce que du coup c'est vrai que le Real Madrid est donc, tu le disais, à la lutte avec le Barça, mais évidemment le joueur dont on souhaiterait parler, on en a un peu parlé avant, ce serait évidemment Karim Benzema qui, ben voilà, depuis ce mondial semble quand même revenir à un niveau assez impressionnant, parce que c'est vrai que on se rappelle qu'avant la Coupe du Monde il avait quand même manqué beaucoup de rencontres, qu'il avait été blessé, qu'il faisait des matchs voilà pas toujours très très convaincants, et qu'il avait quand même eu voilà voilà aussi des rencontres qui étaient vraiment décevantes. On peut même voilà quasiment utiliser ce terme-là, mais c'est vrai que depuis le retour en fait de ce mondial, et bien Karim Benzema marque dans chaque match qu'il joue, à part ce match donc contre Villarreal en Coupe du Roi. Mais sinon voilà, Karim Benzema c'est le joueur qu'on connaît qui, même sans parfois faire des matchs très impressionnants, met toujours son petit but, parce que c'est vrai que notamment le derby qu'il fait hier contre Atlético, donc en Coupe d'Espagne, en soi, ces 120 minutes ne sont pas forcément les meilleures, mais voilà, il est là pour mettre son but, et ça reste quand même un certain leader sur le terrain aussi, dont Ancelotti ne peut pas vraiment se passer directement. Maintenant, on parle souvent de cette course avec Lewandowski pour le titre de meilleur buteur. Ce duel, évidemment que ce duel existe, même si c'est vrai que Lewandowski pardon, a toujours une avance quand même assez confortable en termes de buts. Hein. Je crois qu'il en est à 13 buts et Benzema à 9, si je dis pas de bêtises. Donc il y a toujours quand même un petit écart de quand même 4 unités qui est pas négligeable. Donc effectivement, oui, ce sont deux attaquants qui vont être au coude à coude jusqu'à la fin de la saison et qu'on départagera difficilement. Mais c'est vrai que le Benzema de ces derniers temps redevient celui un peu qu'on reconnaissait enfin qu'on connaît de manière générale, mais surtout celui qu'on voyait la saison dernière, qui était époustouflant et qui a permis notamment au Real de décrocher les différents titres. Voilà, et puis même techniquement, il est toujours, voilà, son but à San Mamés, c'est quand même, voilà, pareil, impressionnant. C'est un joueur qui, en plus de mettre des buts, bah voilà, mais aussi souvent des golassos tout simplement, et qui, comme je le disais avant, reste un vrai leader. Donc effectivement, on peut parler, oui, de retour au top pour Benzema, selon moi, parce que ce qu'il montre depuis quelques semaines est vraiment de très bonne qualité. Et c'est vrai que même dans les différentes défaites du Real Madrid, hein, que ce soit contre Villarreal en Liga, que ce soit contre le Barça, ben, en Supercopa, donc on en discutait rapidement avant, c'est vrai que c'est un joueur qui a marqué même dans ces rencontres-là, quoi. Donc on sent que il est toujours là, même si parfois ce Madrid est en dessous, et même si lui-même parfois, voilà, est en dessous, on sait que c'est un peu, voilà, à l'image de ce Real Madrid, pour finir mon propos sur Benzema. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a beau ne pas être au top, c'est un joueur qui reste Karim Benzema, qui reste un joueur qui a remporté le Ballon d'Or, donc, et qui reste un des meilleurs attaquants du monde à son poste. Donc voilà, non, c'est un peu comme ce Real Madrid qui, pareil, on l'a vu encore contre l'Atlético, on l'a vu contre Villarreal en Copa, on l'a vu même, voilà, dans plusieurs autres matchs cette saison et sur les différentes saisons. C'est voilà, une équipe qui a beau ne pas être au top de sa forme, qui a beau être même dans un mauvais état de forme, tout simplement, on peut carrément le dire, c'est une équipe qui va continuer de surprendre et continuer voilà, d'être un danger jusqu'au bout. Et je pense que Karim Benzema est un peu le symbole aussi de cette équipe, voilà, qu'on présente plus, et ce joueur qu'on présente plus non plus, qui évidemment est un vrai pilier maintenant. C'est vrai que, voilà, je conclurai sur ça. Depuis le départ de Cristiano, on entendait beaucoup de Benzema, et je pense que voilà, il a répondu tout simplement aux attentes, et même fait plus que répondre aux attentes, en tout cas. Et aujourd'hui, voilà, 35 ans, non, ça reste un des ça reste pas ça reste c'est le pilier de cette équipe, tout simplement, avec Thibaut Courtois probablement, qui sont, à mon sens, les deux joueurs qui vraiment déterminent un peu la forme et les résultats de ce Real Madrid. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur Benzema. Et puis on va conclure ce podcast avec un dernier mot. Je vais d'abord en parler rapidement, puis si tu veux compléter après, Sacha, je te laisserai la parole. C'est cette rencontre entre Osasuna et Atleti qui, évidemment, semble être plus qu'un match, parce que c'est vrai que cette équipe d'Osasuna, on l'a dit, a écrit l'histoire en atteignant une nouvelle fois, enfin, ça faisait très longtemps la dernière fois, mais les demi-finales de Coupe d'Espagne. Et en face, surtout, bah, il y a un Atlético qui est là, mais en même temps qui a du mal à faire peur. C'est-à-dire que il y a eu ce match contre Valladolid la semaine dernière, qui en vraiment une demi-heure était un festival de buts, un festival de jeux vraiment impressionnant. Hier, c'est pareil, il y a cette première période contre Madrid qui est impressionnante. Il y a ce but collectif de Morata qui vraiment est bluffant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Atlético marquer des buts de la sorte. Mais en même temps, on sent que c'est quand même une équipe qui, malgré la qualité qu'elle a encore en elle-même, et la vivacité qu'il y a aussi dans ce groupe, on sent que c'est une équipe qui a quand même perdu des pédales. On l'a déjà dit évidemment à plusieurs reprises, mais voilà, la saison de l'Atlético va quand même être d'une tristesse assez grande, parce que c'est vrai qu'on n'est qu'au mois de janvier, qu'on n'est qu'à 19 journées, mais voilà, l'Atlético ne pourra pas lutter pour le titre, sauf énorme énorme surprise, mais je pense que voilà, c'est pas tellement envisageable aujourd'hui. L'Atlético ne pourra pas gagner le titre du coup, parce qu'il y a eu cette élimination en Copa qui était peut-être le voilà ce sur quoi on pouvait beaucoup attendre de l'Atlético sur cette fin de saison, parce que il n'y a plus d'Europe à côté de ça, il n'y a pas eu de Super Coupe d'Espagne ou quoi que ce soit à côté. Donc on attendait beaucoup d'Atlético sur ce match contre Madrid, et il y a eu une élimination évidemment décevante. Donc voilà, l'enjeu du match face à Osasuna, c'est évidemment d'enchaîner en Liga, mais surtout de retrouver une confiance sur la durée, parce que l'Atlético a du mal à afficher une dynamique stable et une régularité depuis quelques temps, parce que cette quatrième place est. Voilà, même de manière générale, cette qualification à Ligue Champion est très loin d'être assurée. Donc voilà, Sacha, si jamais tu veux dire un mot par rapport à cette rencontre rapidement, puis après on conclura avec l'affiche à suivre de ce week-end.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que l'Atleti a pris un vrai gros coup sur la tête, pardon, avec cette élimination hier face au Real Madrid. On sent que c'est une équipe qui est en fin de cycle quand même. Voilà, l'année dernière, ça a été très très chaud pour eux de se qualifier pour l'écart, pour la Ligue des Champions, pardon. Et là, cette saison, on sent que la lutte va être encore plus intense, parce que le Real et bien évidemment le Barça sont déjà bien loin devant. La Real, on en a parlé, mais c'est à mon sens une équipe plus forte qui terminera troisième. Donc là, il va rester un billet à se disputer entre l'Atleti, Villarreal, le Real Betis. Pourquoi pas aussi l'Athletic Club, hein, même s'ils partent de plus loin. Mais mine de rien, c'est une équipe qui, si elle arrive à enchaîner des bons résultats, peut vite se rapprocher de ce wagon-là. Ça va être serré. Donc voilà, pour l'Atleti, c'est vraiment un match un peu charnière. L'année dernière, on se rappelle qu'ils avaient été capables de s'imposer là-bas, que c'était un peu chaud et qu'au final, ça les avait un peu relancés. Donc voilà, pourquoi pas aussi se rappeler à ces bons souvenirs. Je crois qu'il y avait eu de mémoire un super but de Luis Suarez. Bon, désormais, Luis Suarez, il est parti au Grêmio. Puis il est pas mauvais pour ses débuts d'ailleurs, mais voilà, non, pour l'Atleti, c'est un match vraiment à gagner absolument pour garder quand même cette quatrième place, ne pas laisser le doute s'installer. Et voilà. Et puis du côté d'Osasuna, c'est peut-être le match aussi qui, en cas de victoire, viendrait les lancer pleinement dans cette course à l'Europe, sans complexe. Voilà, s'ils sont capables de gagner face à une équipe comme l'Atlético de Madrid, qui même si elle ne va pas bien, reste l'un des cadors de ce championnat, ben, ça confirmera qu'ils ne sont pas à leur position pour rien, qu'ils ont vraiment des arguments, qu'ils ne sont pas en train de faire une saison historique en Copa pour rien. Voilà, c'est une équipe qui a une défense solide. Il n'y a pas vraiment de nom, hein, dans cette équipe-là. Il y a le Chimiari, mais après sinon, ça reste des joueurs entre guillemets lambda, quoi, mais ça travaille très très bien. Il y a un vrai esprit de groupe et ça peut être voilà, pour aussi une victoire référence, un match référence. Donc vraiment, ça va être très intéressant. Deux dynamiques complètement différentes, mais un objectif qui est grosso modo le même. Voilà, il y a pas mal de belles affiches, hein. On va finir le podcast avec ça, mais vraiment celle-là, elle est aussi très intéressante. Et on le répète, mais voilà, pour un Cholo qui semble de plus en plus fatigué, de plus en plus isolé, malgré le départ de Joao Félix, voilà, ce serait je pense bien pour l'Atleti de pas cogiter, de ramener une victoire et de se donner un peu de sérénité, parce que la fin de saison peut être très très compliquée vu leur calendrier.
Ouais, ben c'est ça complètement, c'est qu'on sent que plus rien n'est acquis et plus rien n'est certain maintenant. Et donc voilà, c'est ce qu'on observera évidemment face à cette belle équipe de Sassuna qu'on découvre pas forcément, mais effectivement, tu l'as dit, qui est quand même voilà, une équipe très intéressante à suivre, même si c'est vrai que cette saison est peut-être la meilleure de toutes. Donc voilà, on termine avec cette question qu'on va se poser, que je vais d'abord te poser, Sacha, puis j'en parlerai ensuite après. Voilà, pour cette 19e journée de Ligue 1, quelle est l'affiche qu'il faut, selon toi, ne pas louper ?
Il y en a beaucoup que je ne louperai pas, hein. On aura beaucoup, beaucoup de matchs, bien évidemment. Le match du Barça à Gironde, ce sera vraiment intéressant. Un petit derby catalan. En plus, on sait que Gironde, c'est vraiment une équipe très intéressante aussi à domicile, qui met pas mal de vitesse. Mais non, peut-être pour une fois, un match du lundi vraiment passionnant qui peut nous attendre, c'est ce Villarreal Rayo Vallecano. Alors, on sait que le Rayo est moins inspiré à l'extérieur qu'à domicile, mais vraiment, face à cette équipe de Sétienne, ça peut vraiment être intéressant. Je pense qu'il y a tout pour voir un bon match entre deux équipes techniques qui pareil aussi, veulent se battre pour des places européennes. Le constat que je dressais pour le Osasuna peut être un peu le même au niveau du Rayo d'Iraola et de Issy Palasson. Donc voilà, je pense que ce match-là peut vraiment être très intéressant. Un petit lundi soir à la Ceramica. Voilà, voir comment aussi Villarreal va agir par rapport aux résultats de ses concurrents, est-ce qu'ils sont capables de rester dans la course pour la Ligue des Champions. Et puis non, encore une fois, un match qui, je pense, techniquement, en termes d'intensité, peut nous apporter beaucoup. Donc voilà, c'est cette petite affiche-là à ne pas louper.
Ouais, bah effectivement, je te partage ce que tu disais par rapport au fait que ce week-end est quand même riche, et comme tous les week-ends, forcément, il y a des enjeux, mais surtout, voilà, plus on avance dans la saison, plus les matchs sont importants. Forcément, on a parlé du gros match qui était la rencontre entre la Real Sociedad et puis le Real Madrid, qui évidemment sera passionnante à suivre et puis qui, au-delà de ça, sera décisive. Voilà, le match du lundi, tu en parles aussi très bien, qui est évidemment une belle rencontre. Il y a ce match aussi entre le Celta et l'Athletic, qui évidemment ne sont pas au même niveau du classement, mais qui ont tous les deux besoin de gagner pour un peu reprendre confiance et puis retrouver aussi une dynamique et pour le Celta, s'éloigner un peu de la zone rouge, pour l'Athletic revenir un peu dans la course à l'Europe, qui évidemment n'est pas finie, mais on sent qu'il y a quand même un train qui peut partir. Non, et puis voilà, moi, si je devais donner un match, voilà, pour pas forcément citer les plus gros ni citer celui que tu as donné, je dirais le match entre Séville et Elche, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est surtout pour Séville, on sent que le contexte là-bas est de plus en plus compliqué, même pour la direction, on voit que chaque match de domicile maintenant est un lieu, enfin, ouais, on voit en tout cas devant la salle des milliers de personnes qui se rassemblent pour manifester. Et en même temps, voilà, cette équipe de Séville qui voilà, est dans une situation assez compliquée. Et tu sais, bon, on en parlait avant, mais c'est pareil, il y a une vraie urgence à réagir. Donc voilà, c'est un peu la piste que je pourrais donner pour changer un peu de ce qu'on a dit avant, parce que les deux équipes sont dans une situation assez compliquée. Mais voilà, même ce match entre Osasuna et Atleti, évidemment. Voilà, sur le papier, reste passionnant à suivre. Et en tout cas, ce week-end sera évidemment très intéressant avant les deux matchs qui arriveront la semaine suivante et qui, pareil, voilà, nous permettent aussi de belles rencontres. Donc, on arrive à la fin de ce numéro assez général, assez global sur cette 19e journée de Liga qui arrive. Et puis, pour faire un peu le point qu'on a fait justement sur cette reprise de Liga post-Coupe du Monde. Voilà, merci beaucoup Sacha de m'avoir accompagné pour ce numéro et puis qu'on ait pu avoir cette discussion sur l'ensemble de l'actualité, des résultats du championnat espagnol.
Mais avec plaisir, hein, évidemment. C'est vrai que c'est intéressant. D'habitude, on présente toujours là où les grosses affiches du week-end, en s'attardant vraiment sur la rencontre. Mais là, voilà, on a aussi voulu proposer quelque chose de différent. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas non plus à nous l'indiquer dans les commentaires ou même en nous envoyant un petit message. Voilà, ça peut être intéressant à certains moments de la saison de faire. D'établir un plus large panorama, de parler de plusieurs sujets. Mais en tout cas, voilà, c'était très intéressant. Je pense qu'on a été complet et non, bon, toujours beaucoup de plaisir. Et puis voilà, on attend vraiment que cette 19e journée de Liga commence et elle sera riche en enseignements. En plus, là, vraiment, on actera vraiment la mi-saison, même si le Barça et le Real auront des matchs face au Betis et face à Valence pour rattraper ces rencontres qu'ils n'ont pas pu disputer pardon, en raison de la Supercopa, mais voilà, vraiment super et vraiment on a hâte de voir toutes ces rencontres.
Voilà, bah, l'essentiel a été dit, je pense. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ce numéro, évidemment, un peu différent, vous aura plu, comme ça a été dit. Et puis voilà, on vous souhaite une très bonne 19e journée de Liga. Et on se retrouve en tout cas très bientôt pour parler d'autres matchs très passionnants qui arrivent dans ce beau championnat qu'est la Liga. Donc voilà, bon week-end à tous et bon match.